Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Nous sommes le 18 juin et il y a 80 ans, le général de Gaulle prononçait sur les ondes de la BBC son célèbre appel à la résistance. La journée est donc une journée de commémoration un peu partout en France et à Londres, d'autant que l'année correspond aussi aux 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle et au cinquantenaire de sa mort. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a foule dans le personnel politique français pour rendre hommage au général et même pour se réclamer de sa lignée politique et historique. Et cela ne concerne pas que les membres du parti historiquement associés au gaullisme, loin de là. Qui peut capter l'héritage du général de Gaulle? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous par téléphone. Distanciation physique oblige. Serge Berstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite, auteur de nombreux livres, entre autres « Histoire du gaullisme » aux éditions Perrin et « La République gaulienne 1958-1969 » au Seuil. Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, historien, auteur de nombreux livres sur les présidents de la Ve République, auteur d'une biographie « Charles de Gaulle » sortie en 2002 chez Gallimard et rééditée en poche chez Tempus Perrin. Et Olivier Roucan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, constitutionnaliste, enseignant-chercheur associé au Centre d'études des recherches de sciences administratives, le CERSA. Serge Berstein, pourquoi, lorsque l'on est un homme ou une femme politique en France aujourd'hui, la figure du général de Gaulle est-elle toujours aussi importante, toujours aussi incontournable ?
Elle est d'abord aussi importante et aussi incontournable, fondamentalement parce que le général de Gaulle, tout le monde le connaît, c'est probablement la personnalité historique majeure du XXe siècle français, et de surcroît, le temps passant, les anciens opposants au gaullisme, parce qu'il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, se sont estompés dans le temps, et dans toutes les forces politiques, la stature du général de Gaulle, son importance est notée. C'est d'abord un personnage historique, celui qui a permis à la France de se sortir d'une guerre qu'elle avait perdue en 1940 et avec toutes les apparences du vainqueur, ce qui a été son combat de 1940 à 1944. Et c'est ensuite le créateur d'une nouvelle république qui désormais est en passe de dépasser par sa longueur la Troisième République qui avait duré déjà fort longtemps au regard de ce que durent les régimes politiques en France et en particulier au XIXe siècle. Alors, se réclamer du général de Gaulle, c'est se réclamer en quelque sorte d'une quasi-unanimité d'une grande partie de l'opinion française.
Éric Roussel, est-ce que, comme le disait le général de Gaulle, paraît-il, tout le monde a été, est ou sera gaulliste, est-ce que tout le monde est gaulliste aujourd'hui en France ?
Écoutez, ça c'est très difficile de le dire. Non, je pense qu'il y a des poches de résistance, notamment, et ça peut se comprendre, les descendants de Français d'Algérie, parce que on sait très bien que dans ces milieux-là, le souvenir de ce qui s'est passé après l'indépendance est resté quand même assez vif. Et je ne pense pas. Enfin, il y a eu certainement des cas qui infirmeraient ce que je dis, mais enfin, je crois que globalement, De Gaulle ne doit pas être très très populaire dans ce qui reste de ce milieu. Mais c'est vrai qu'en dehors la principale poche de résistance, ça a été le pétainisme. Enfin, le pétainisme, aujourd'hui, ça ne représente absolument plus rien. Donc, Non, effectivement, en tout cas, il y a peu de manifestations d'antigaullisme, voilà ce qu'on peut dire.
Olivier Roucan, est-ce qu'il y a un bénéfice politique à retirer de se placer sous la figure du général de Gaulle ? Est-ce que ça rapporte des voix ?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse calculer ce genre de phénomène s'il se déroule, mais il est clair que symboliquement, se placer sous la figure de la geste mythe, voire du verbe gaulien, est toujours, si l'on peut dire, un symbole d'une inclusion à la Ve République et aux valeurs qui ont porté la France libre. Donc, ce sont les marqueurs principaux de l'histoire de la France dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, c'est intégré la grande famille républicaine, le pacte républicain, avec le sens, on va dire, assez flou que tout ceci peut prendre. Et on voit bien que difficilement, aujourd'hui, la candidate du Rassemblement national qui a lissé l'image de ce parti essaie aussi de s'inscrire dans, avec difficulté, dans cette tendance.
Alors, dans cette tendance, à tout seigneur, tout honneur, il y a Emmanuel Macron. Il est président de la République et à ce titre, il est en première ligne dans cette année mémorielle exceptionnelle, année de Gaulle. Serge Bernstein, que pensez-vous, vous, en tant qu'historien, de la façon dont il mène cette année mémorielle ?
Eh bien, je pense qu'il la mène avec beaucoup d'habileté et également avec la possibilité de donner au mouvement qu'il a créé et qui a tendance à s'effilocher par les temps qui courent, cette image que le général de Gaulle avait voulu donner. Vous savez, on connaît un discours célèbre au moment du second tour de l'élection présidentielle de 1965, où le général de Gaulle expliquait ce qu'était la France à ses yeux, et en disant « La France, ce n'est pas la gauche », et il donnait un certain nombre de raisons, « La France, ce n'est pas la droite », et il ajoutait d'autres raisons. Par conséquent, au fond, la position du général de Gaulle était une position centriste, si l'on veut, et Emmanuel Macron, qui s'est installé dans ce créneau qui existe, mais qui est la plupart du temps mangé par la gauche et par la droite, du centre français, a au fond quelques légitimités à dire, mais après tout, moi je suis dans le droit fil du général de Gaulle. Et ce n'est, alors bon, les différences sont considérables à tous égards, mais disons que cette position est défendable dans la mesure où s'est réclamé d'emblée, non pas ni droite ni gauche, ce qui a un autre sens, mais à la fois de droite et de gauche, en prenant dans chacune d'entre elles ce qu'il y avait de bon pour la société française.
Éric Roussel, Emmanuel Macron n'est pas effectivement politiquement et historiquement d'une famille qui est directement héritière du gaulliste, mais il en adopte les signes.
Oui, il faut dire quand même que ce qui change tout, c'est quand même
la fonction
de la France.
Et la fonction.
Oui, la fonction. La fonction, c'est, elle a été en quelque sorte sculptée par De Gaulle. Bon, chacun évidemment, il apporte sa marque. Ça, c'est normal. Non, ce qui a changé beaucoup, c'est la France. La France d'aujourd'hui, elle a peu de choses à voir avec la France de De Gaulle. Et ça change tout. C'est une société qui est beaucoup plus fragmentée, beaucoup plus. Et on peut dire que c'est la tâche des gouvernants aujourd'hui est sans doute encore plus compliquée. Enfin, De Gaulle s'est affronté évidemment à des problèmes terribles, notamment pendant la guerre, la libération, etc. Enfin, disons que la période 58-69, indépendamment de l'Algérie, qui était un énorme problème. Mais De Gaulle avait quand même affaire à une société qui était stable, où il y avait des valeurs, où il y avait des valeurs de la religion, était encore relativement c'était une société structurée. Ça a commencé à exploser en 68, mais donc c'est, à mon avis, ces comparaisons n'ont pas beaucoup de sens, parce que je vois pas, est-ce qu'on supporterait en plus la face de Gaulle est quand même un homme qui se caractérise, je crois que c'est ça qu'il caractérise d'abord, c'était un homme qui décidait, qui tranchait, Et ce qu'on oublie dans le climat de l'unanimité qui l'entoure aujourd'hui, c'est que c'était un homme qui tranchait et qui n'hésitait pas à diviser profondément. De Gaulle a énormément divisé, n'a pas hésité à diviser par des choix nets, à commencer par le premier, celui de 1940. L'Algérie, ça a été aussi un choix qui a déchiré le pays, on a tendance à l'oublier. Et ainsi de suite. Regardez même les réformes de 1960, de 58, les réformes, elles allaient dans un sens très très libéral. On dirait aujourd'hui que ça serait qualifié d'ultra-libéral. Mmh. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qui rend toute comparaison, à mon avis, assez difficile.
Olivier Roucan, vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que j'ai un petit peu mauvais esprit. Est-ce que Emmanuel Macron, en affichant les signes du gaullisme, la croix de Lorraine sur les armes de l'Élysée, un portrait du général donné par Jacques Chirac sur son bureau, est-ce que en faisant ça, Emmanuel Macron, il poursuit aussi peut-être un petit objectif politique avec le parti Les Républicains?
Il y a toujours des stratégies symboliques à double, voire triple jeu, et on voit bien qu'Emmanuel Macron, en assumant d'emblée une verticalité, et ça lui a été aussi reproché, un certain autoritarisme dans la figuration, dans la décision, a voulu se placer dans les pas du gaullisme. Au-delà, en effet, ensuite, il y a le jeu, je dirais, partisan, dans un contexte très troublé sur le plan de l'organisation des forces politiques. Il est clair que Emmanuel Macron, profitant du charisme d'institution, peut essayer de s'approprier une partie l'héritage gaullien, et que cela peut se faire, j'allais dire, au détriment de Les Républicains. Mais l'éloignement des Républicains du gaullisme originel est quand même maintenant très ancien. On peut même dire que ça a commencé à partir de Pompidou. Donc tout ceci, le fait que De Gaulle aujourd'hui soit revendiqué par tous les partis, y compris les plus éloignés au départ, comme le Rassemblement national, pour toutes les raisons que l'on sait, à la fois la question algérienne et puis sur les questions du pétainisme, bah, tout ceci, on voit à quel point aujourd'hui la figure gaullienne peut être revendiquée par tous, et d'abord par celui qui occupe la fonction présidentielle. Mais à cet égard, moi je voulais dire, pour prolonger un peu la remarque de Monsieur Roussel, c'est la fonction a quand même considérablement changé avec le quinquennat. Et De Gaulle, souvent dans l'imaginaire, c'est l'incarnation des grandes orientations, la projection de la nation dans l'avenir, dans la durée. Or aujourd'hui, que peut faire un président à cet égard? Donc comparaison n'est pas raison, et il y a quand même une rupture d'époque, ce qui fait qu'aujourd'hui, De Gaulle, c'est un mythe, c'est une légende. Mmh. Mais l'activation de ce mythe commence à trouver de sérieuses limites, me semble-t-il, dans le jeu politique ordinaire du quotidien. Mmh.
Serge Bernstein, on en a parlé un petit peu chacun depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, Marine Le Pen se réclame du gaullisme. C'est étonnant quand même.
Ah ouais, alors c'est plus qu'étonnant, c'est un paradoxe assez extraordinaire, dans la mesure où s'il y a un marqueur du Front National, c'est la détestation du général de Gaulle en raison de la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie qui a creusé le fossé entre le nationalisme extrémiste de Jean-Marie Le Pen et le nationalisme patriotique que mettait en avant le général de Gaulle, puisqu'il a considéré que la France, au fond, pouvait se passer de l'Algérie, ce qui n'était pas du tout le point de vue du Front National à l'époque. Alors, le fait que Marine Le Pen franchisse, au fond, cet extraordinaire fossé très profond creusé entre les gaullistes et le Front National, ça a évidemment la signification de la volonté de pousser au bout la dédiabolisation de ce parti d'extrême droite qu'était et qui est toujours, je pense, le Front National, simplement qui, depuis un certain nombre d'années, a perdu, sous l'effet d'ailleurs de la politique de Marine Le Pen, une partie de sa virulence pour essayer de se présenter comme un parti comme les autres, et ça n'a pas mal marché. Marine Le Pen a quand même eu un tiers des voix lors de l'élection présidentielle de 2017. Alors, est-ce que c'est complètement faux? Je pense que Marine Le Pen vient de caser la rupture que représentait l'abandon de l'Algérie française par le général de Gaulle au rang des accessoires inutiles et nocifs si on veut arriver au pouvoir. Et comme c'est cette arrivée au pouvoir qui l'intéresse, eh bien, elle se met à l'unisson de la plupart des forces politiques françaises qui, depuis longtemps, même s'ils n'ont pas adoré le général de Gaulle lorsqu'il était vivant, ont fini par l'exalter à mesure que on s'éloignait de la date de son décès. Alors, la question qui se pose, c'est sincérité ou pas. Mais je crois que cette question-là, il faut la poser, pas seulement au niveau de Marine Le Pen, où la tactique est sans doute fondamentale, mais au niveau du parti qu'elle dirige. Parce qu'on s'aperçoit qu'au cours de l'histoire, les forces politiques qui ont fait des virages à 180 degrés, eh bien, ont entraîné derrière eux une partie de l'opinion qui est venue à eux en raison de ces virages. Et par conséquent, il n'est pas impossible, l'avenir le dira, que cette initiative de Marine Le Pen permette effectivement, de civiliser le Rassemblement National, puisque c'est son nom, au sein des forces politiques françaises. Donc c'est un élément qui, me semble-t-il, doit être considéré. On verra ce que l'avenir en fait.
Et Éric Roussel, est-ce que le fait que Marine Le Pen le fasse aujourd'hui, c'est parce que peut-être il y aura moins de réactions de la part des gaullistes historiques ou même des fondateurs de son propre parti? Est-ce que le temps a passé et qu'elle peut donc s'autoriser ce virage à 180 degrés?
Si vous voulez, elle peut l'autoriser. Bon, ça évidemment, au premier abord, ça paraît surprenant étant donné son histoire familiale, mais en fait, il est vrai qu'elle a malmené beaucoup aussi son histoire familiale. Donc, vous parlez de gaulliste historique. Aujourd'hui, il ne reste plus le gaulliste historique. Il y a quand même très longtemps qu'il n'y a plus de gaulliste historique.
Donc oui, il reste quatre compagnons de la Libération encore vivants.
Oui, d'accord. Voilà. Enfin, ce sont, oui, non, mais ce voilà. sont des gens. Mais si vous voulez, dans les forces politiques, il n'y a plus aucun gaulliste historique depuis longtemps. Mm-hmm. Donc aucun parti aujourd'hui ne peut prétendre avoir une relation directe avec de Gaulle. Oui, je suis assez de l'avis de Serge Berstein. Je pense que c'est quelque chose qui est a priori paradoxal, voire choquant, mais qui a peut-être des chances de succès. D'autant plus qu'il faut voir aussi que le gaullisme, plus exactement, a eu des visages différents. Et il y a un visage du gaullisme qui a peut-être certains traits communs avec ce qui se fait avec le mouvement de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est le rassemblement du peuple français, c'est-à-dire c'est le mouvement que le général de Gaulle a lancé en 1947, on peut dire contre la République, et contre la Quatrième République, et avec pour but de revenir au pouvoir. Et c'était le moment où le gaullisme a eu son exception, si vous voulez, la plus nationaliste, la plus droitière. Mmh. Donc, il y a certainement, dans le, si vous regardez le vocabulaire, les thèmes, il y a un certain nombre, oui, de thèmes communs, et c'est peut-être d'un pur point de vue de, si vous voulez, de l'habileté, c'est pas absurde de vouloir relier ce mouvement, ce rassemblement national, dont le nom a peut-être pas d'ailleurs été choisi au hasard, parce que rassemblement national, ça peut évoquer aussi rassemblement du peuple. Il y a des messages subliminaux.
Mmh. Olivier Roucan, est-ce que ça peut marcher, ce virage de Marine Le Pen, cet aggiornamento?
Encore une fois, symboliquement, c'est un peu un exercice obligatoire pour être intégré à la famille républicaine. Et Marine Le Pen a engagé une stratégie de lissage qui est sans doute apparente uniquement pour partie, c'est-à-dire que sans doute est-ce que le Rassemblement national reste inspiré par une logique d'extrême droite, mais il y a cette opération qui fonctionne en partie, on le voit bien, électoralement. La question que je me pose, par exemple, puisque nous sommes au temps des municipales et qu'il y a des collectivités qui, dans le pourtour méditerranéen, vont voter lors d'un second tour bientôt. Et dans cette partie du pays, il y a encore un électorat Algérie française qui est présent, avec pour le coup là des candidats à Rassemblement national qui se disputent cet électorat avec des sortants de la droite classique très ancrés dans l'électorat pied-noir également. Je pense par exemple à la ville de Perpignan. Et je me demandais l'écho que pouvait avoir la tactique ou la stratégie de Marine Le Pen là dans le cadre de ce contexte électoral.
Serge Berstein, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose à ce que vous entendiez tout à l'heure de la part d'Éric Roussel.
Pas spécialement. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, si vous voulez. Mmh. Et il me semble que il y a évolution des forces politiques, et ça c'est vrai dans toute la période historique, en tout cas du XXe siècle, où les partis ont été organisés. Cette évolution, elle se fait toujours autour de la force majeure du monde politique du moment. Par exemple, au début du XXe siècle, on a vu des catholiques, jusque-là très hostiles à la République, finir par se dire républicains après le ralliement ordonné par le pape. On a vu des gens qui venaient de l'extrême gauche finir par perdre de leur radicalité pour se présenter finalement comme des hommes politiques classiques, courtisant les électeurs et acceptant la République. J'ajoute même que c'est allé plus loin, puisque à l'époque où la gauche était dominante, on a vu des forces politiques fortement marquées à droite se réclamer de la gauche. La gauche républicaine du Sénat, par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, est le parti le plus à droite de l'échiquier politique du Sénat. Et elle s'appelle la gauche républicaine. Donc je crois que ce type de phénomène, il existe incontestablement, et qu'il finit par y avoir, lorsqu'un régime est relativement bien installé et paraît solide, une mutation des forces politiques qui lui étaient opposées, qui baissent leur opposition et qui finissent plus ou moins, si le régime dure assez longtemps, bien sûr, par s'y intégrer.
Éric Roussel, il y a des hommes politiques de la nouvelle génération, comme Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui est né en 1982, soit 12 ans après la mort de Charles de Gaulle, qui qualifie le général de Gaulle de père politique. Très honnêtement, pour cette génération-là, il est mort il y a 50 ans, Charles de Gaulle. Ça parle à qui encore, le gaullisme ?
Oh, le gaullisme, je ne sais pas, mais enfin, le personnage de Gaulle, ça, il est certain que ça, que c'est une figure qui parle encore beaucoup, l'acte fondateur du 18 juin. Ça, on peut pas le. C'est ça surtout d'ailleurs quand on regarde ce qui fond, ce qui marque les Français dans le personnage de De Gaulle, c'est essentiellement cet acte fondateur. Ce qui s'est passé sous la Ve République, oui, je peux susciter l'intérêt, mais enfin, c'est quand même secondaire par rapport à 1940. Ça, c'est tout à fait net. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé de 58 à 69, mais ça vient, à mon avis, en second. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est assez facile de se réclamer de De Gaulle, parce que, effectivement, cette initiative inouïe qu'il a prise en juin 1940, quand on voit les pays comme... De Gaulle arrive à Londres avec rien, il n'a absolument aucun moyen, et 4-5 ans après, il est à la table des vainqueurs, donc c'est quelque chose d'absolument inouï, et qui peut évidemment inspirer toujours aujourd'hui, oui, ça c'est...
Serge Berstein, Olivier Roucan, je reviens avec vous,
je voulais
ajouter quelque chose.
Je voulais ajouter, si vous voulez, qu'on se demande si tel ou tel se réclame du gaullisme, mais encore faudrait-il définir le gaullisme. Or, il me semble que le gaullisme, au fond, ça se résume, j'entends de manière permanente, de deux choses. Un, assurer la grandeur de la France, et deuxièmement, le moyen d'y arriver, avoir un État fort. À partir de là, le gaullisme est suffisamment imprécis pour avoir au service de ces deux éléments qui n'ont jamais changé la possibilité d'avoir des politiques très diverses, voire contradictoires, entre l'intervention de l'État dans l'économie, par exemple, et puis l'économie française lorsque Valéry Giscard d'Estaing est ministre des Finances, il y a un océan. Donc, je crois que ce qui joue aussi, et ce qui permet d'adopter très largement le général de Gaulle, c'est le caractère extrêmement flou. Il n'y a pas au fond...
Ah, on a perdu...
Véritablement, à la différence des doctrines d'un certain nombre de partis politiques français.
Olivier Roucan, on va conclure avec vous. Il nous reste un tout petit peu plus d'une minute. Qui est selon vous?
Oui. Moi, je voulais peut-être, pour compléter le propos, évoquer je ne sais pas si la terminologie est la bonne, mais une forme de gaullisme institutionnel qui participe quand même de la définition du gaullisme. D'abord, puisqu'on parlait de l'État, il y a aussi l'autorité de l'homme de caractère et du chef de l'État. Cette conception de la fonction présidentielle, d'une part, et c'est lié au second point que je voulais aborder. Le gaullisme institutionnel, il est aussi fondé sur la pratique du référendum question de confiance. Et ça, c'est la marque du pouvoir gaullien, que ce soit pendant la période algérienne ou après. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il n'y a pas d'héritage. Et nous sommes à une période où beaucoup de partis, quels qu'ils soient, ou de politiciens ont le mot peuple au bord des lèvres toute la journée. Simplement, finalement, on se rend compte que une partie de cet homme de caractère, de ce courage gaullien, a consisté à utiliser le référendum et, de ce point de vue, à prendre des risques démocratiques. C'est-à-dire qu'il y avait bien cette pratique qui participe, pour moi, de ce qu'on appelle le gaullisme, et qui s'est complètement effacé, notamment et surtout à partir de Jacques Chirac.
Merci Olivier Roucan, merci également à nos autres invités, Serge Berstein et Éric Roussel. Merci à vous d'avoir participé à cette émission qui se termine. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thurie. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site RFI.fr ou sur nos applications mobiles. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.